Bon, j'ai failli lever ma main parce que je suis prof en collège, mais en fait c'est moi qui prêche, donc il faut que je reste. Alors bonjour à tous, c'est une joie de vous voir. On est quelques jours en visite dans la région lyonnaise parce que c'est les 21 ans de mon père. Alors on célèbre ce moment ensemble. On est arrivé mardi, c'est ça ma chérie? Oui, et on repart mardi, donc une semaine dans la région lyonnaise. Alors j'ai 27 ans, je suis donc le numéro 2 de la famille Sutherland, je suis prof d'anglais dans un collège et aussi dans une université. Et à côté de ça, on est missionnaire, on est faiseur de tentes, ça veut dire que notre métier nous permet de dégager du temps pour servir une implantation d'église à Lens, dans le Nord. Alors le Racing Club de Lens, sang et or, c'est nous. Il fait froid, mais les gens ont le cœur chaud, donc ça contrebalance. Et dans mes études, en 2009-2010, j'ai passé un an dans la ville de Bristol. C'est dans l'ouest de l'Angleterre. Et si vous connaissez un peu Bristol, c'est une ville qui a été balayée par le réveil il y a 200-250 ans par les frères Wesley. Et c'est là où Müller a fait ses orphelinats. Et j'avais l'habitude, j'habitais en dehors de la ville de Bristol, et j'avais l'habitude de prendre, vous savez, ces bus à deux étages. Vous avez déjà pris des bus à deux étages, oui? Ça vous voyez? Et alors moi, j'aimais bien aller en haut, et vous savez, quand vous prenez votre ticket, vous montez les escaliers. En général, quand vous montez les escaliers, le conducteur se met à démarrer, alors vous montez un peu en galérant. Et moi, j'avais l'habitude de me mettre à l'étage, collé aux vitres, et sur la demi-heure de trajet que j'avais, j'étais témoin, 250 ans après, des restes du réveil dans cette ville de Bristol. Des églises à tous les coins de rue. Le dimanche matin, quand je prenais le bus, littéralement, vous voyez les gens sortir de chez eux pour aller à l'église. Et c'était pour moi une vision extraordinaire de ce que Dieu avait fait, que Dieu avait rencontré des gens, des églises étaient présentes, et 200 ans après, vous avez ces restes. Et ce trajet m'a toujours marqué en descendant au centre-ville de Bristol. Et ce matin, je vous propose un petit trajet. Alors, je vous demanderai d'avoir votre ticket, ça va être votre Bible. Je vous demanderai de monter à l'étage, c'est-à-dire de prendre de la hauteur sur vos soucis. Je vous demanderai aussi d'être collé aux vitres, c'est-à-dire être prêt à ce que le Seigneur va vous dire, où on va voir une rencontre de ce que Dieu a fait. Et dans ce trajet de ce matin, on va avoir trois arrêts. Ce sera les titres de chacune des parties, ce sera trois arrêts. Et au moment où tout le monde descendra, on aura des consignes pour notre semaine. Ça vous va? C'est le programme de ce matin. Je vais prier et après on prendra un passage ensemble. Seigneur, merci parce que ce matin, on n'a pas à construire un hôtel pour venir te rencontrer. Mais c'est Jésus à la croix qui nous a ouvert la voie. Seigneur, merci parce que ta parole nous parle. Je te prie que nos cœurs soient de la bonne terre, où cela puisse pousser dans la semaine, dans nos vies. Donne-nous d'être à l'écoute, de prendre de la hauteur pour ce trajet que tu mets devant nous, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. On va avoir une rencontre ce matin dans Acte 9. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Acte 9. Vous devez connaître cette rencontre. C'est la rencontre de Saul, avec Jésus lui-même. Et j'ai envie qu'on soit témoin encore une fois de cette rencontre et qu'on puisse retirer des leçons 2000 ans après cette rencontre et que ça nous parle aujourd'hui, j'espère, et dans notre semaine. Donc, acte 9, on va prendre du verset 1 au verset 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Nouvelle doctrine, disons, des chrétiens. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit, une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et dit, Et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. premier arrêt sur notre trajet. Cette rencontre est une rencontre exemplaire. Ce que j'entends par exemplaire, c'est-à-dire qu'on voit une norme que l'on aura dans toutes les rencontres de toute personne entre lui-même et Jésus. La première chose qui est exemplaire dans cette rencontre, sur ce premier arrêt, c'est que on a affaire à Saul, qui est un pécheur. Relisez le verset 1 et 2. Il respire la menace. Il a le sang d'Étienne sur les mains et il va vers d'autres personnes pour leur couper la gorge ou les lapider. C'est quelqu'un qui est clairement rebelle contre Dieu. Il est clairement dans la rébellion. Ses plans invisibles dans son cœur, prendre des lettres pour aller vers des chrétiens, sont mis en plein jour. Les plans invisibles de notre cœur, mis en plein jour. Oh, mince, je suis pécheur, même si je croyais que j'étais quelqu'un de bien. Paul, Saul, est clairement pécheur. Paul, Saul, je dirais les deux aujourd'hui, a manqué la cible. C'est ça le péché en fait, c'est manquer la cible. Et aujourd'hui, on est tous conscients qu'on a manqué la cible. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que vous avez manqué une cible. On réalise bien qu'il y a un problème. On réalise bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre société. Et d'ailleurs, on dit que c'est la société qui ne va pas, alors qu'en fait, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur, parce que c'est du cœur que viennent les adultères, les meurtres, la cupidité. On a ce pécheur séparé de Dieu. Il devient tremblant, il est humilié par terre. Seigneur, qui es-tu ? On sait que Paul est pécheur, mais est-ce qu'on réalise qu'en fait tous sont péchés ? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, on l'a dit ce matin. C'est intéressant que Guy l'ait dit, parce que c'est ce que je voulais aussi amener. On est tous pécheurs, on est privés de la gloire de Dieu. On est pécheur du verbe être et on est pécheur du verbe naître. Alors je ne suis pas prof de français, mais oui, on est pécheur. C'est en nous, c'est un logiciel installé en nous qui nous rend séparés de Dieu et on meurt. Mais ce qui est fort dans cette rencontre exemplaire, c'est que le pécheur est gracié. Le pécheur est gracié. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et là on peut se dire, waouh, la grâce elle a surabondé. Comment est-ce qu'on voit ça dans ce passage ? Paul qui respire la menace, versets 1 et 2. Paul qui va vers Damas pour tuer d'autres chrétiens. Paul qui est clairement à l'encontre de la personne de Dieu. Paul qui est rebelle, manque la cible, tout ce que vous voulez. Paul qui dans son cœur est ennemi de Dieu, un peu comme nous tous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Dieu vient quand même à sa rencontre. Dieu est venu à ma rencontre alors que je n'étais pas bon. J'étais un peu comme Paul, sauf que je ne tuais personne, ainsi dire. Mais Dieu est venu à ma rencontre alors que j'étais clairement rebelle. Et ça doit être la même chose dans votre vie. Si vous regardez en arrière, si vous dites, waouh, c'est vrai qu'en fait, j'étais peut-être en train de le chercher, mais au mon fort intérieur, il y avait ce logiciel installé qui est le péché qui faisait que j'étais ennemi et séparé de Dieu. Et Dieu m'a aimé. Donc le pécheur a été gracié. Et dans toute rencontre, c'est ce qui se passe. Dans toute rencontre, c'est ce qui se passe. On est un pécheur qui est gracié. Gracié par qui ? Par Jésus. Et là, Paul rencontre Jésus. Il rencontre Jésus personnellement. Alors, on a une identité de Jésus assez claire. On a un Jésus qui est chef de l'Église. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit qu'il est chef de l'Église ? Tout simplement parce qu'il dit « Tu me persécutes ». Paul dit « Non, je ne te persécute pas, moi je persécute l'Église. » Oui, mais Christ est le chef de l'Église. Donc on a un Jésus chef de l'Église. On a aussi un Jésus qui est la lumière du monde. La lumière resplendissante. Il devient aveugle. Et plus fort encore, si la croix est vraie, le tombeau vide l'est aussi. On a un Jésus-Christ ressuscité. On a un Jésus-Christ ressuscité. Donc on a un pécheur gracié par Jésus. Et dans ce premier arrêt, on a une rencontre qui est exemplaire, parce que même si on ne doit pas tirer des théologies du livre des actes, parce que c'est un narratif dans une période assez spectaculaire, mais il y a quand même des choses qu'on doit retrouver dans toute conversion. Et si vous faites un flashback dans votre vie, ou si, je vous le souhaite, vous allez mettre votre vie en règle aujourd'hui ou cette semaine, c'est ce qui va se passer pour vous. Vous êtes un pécheur gracié par Jésus lui-même. Et c'est une histoire magnifique, cette rencontre entre un homme et Dieu. Une rencontre exemplaire, c'est le premier arrêt, où on voit pécheur qui est gracié par Jésus. Cette rencontre personnelle, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. pécheur, grâce, Jésus. C'est exemplaire, c'est normatif. Toute rencontre avec Jésus devrait avoir un moment ou l'autre ces trois étapes. Et nous, ce qui est vrai aussi, on se dit qu'il y a la repentance et la foi, c'est un peu ce qui suit, c'est parce que nous on produit, c'est ce que Dieu vient produire en nous. Mais si cette rencontre est exemplaire, c'est le premier arrêt. Le deuxième arrêt que je voudrais vous proposer, c'est qu'on ait une rencontre qui est spectaculaire. On est d'accord, hein, que la rencontre est spectaculaire. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui rencontre Dieu personnellement, qui ne mange rien, ni ne boit, et qui est aveugle pendant 3 jours? Vous avez déjà vu? Surprenant quand même. Alors je sais qu'on a aussi des fois des culbutes théologiques pour nous dire, ouais, mais c'était les actes. Oui, les actes étaient spectaculaires et différents de notre temps, je le conçois. Mais il y a deux pièges que je voudrais essayer d'identifier à éviter. Le premier, c'est que souvent, nous disons que toute rencontre ne doit pas avoir de spectaculaire. Parce que les actes, c'est fini. Ça, c'est un danger, un piège. C'est-à-dire que toute rencontre doit être intellectuelle avec Dieu. Ça veut dire que c'est pécheur, gracié par Jésus, stop. Et je pense que c'est un piège parce que c'est faux. Mais le deuxième piège à éviter, c'est que toute rencontre doit être spectaculaire. Parce que c'est faux. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des rêves. Qui sommes-nous? Donc si le premier arrêt était normatif, c'est exemplaire, le deuxième arrêt, c'est pas normatif. Dieu des fois le fait, des fois ne le fait pas de spectaculaire. Et je voudrais juste vous raconter quelques histoires pour vous montrer que Dieu utilise encore aujourd'hui, avec ces trois étapes, pécheur, gracié par Jésus, du spectaculaire sans que nous on puisse y faire quoi que ce soit. Alors on voit deux choses spectaculaires dans ce passage. La première, c'est que Dieu a intervenu dans le corps de Saul, parce qu'il était aveugle. Et on sait aussi que si on continue la conversion, Dieu intervient dans un rêve d'Ananias qui est conduit vers Saul et il dit « Oula, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, je voulais juste vous montrer et juste expliquer deux histoires que j'ai entendues ou que j'ai vécues par l'intermédiaire d'un frère où le spectaculaire a été visible. Le premier, c'est un frère d'une église sœur. Donc nous, on est à Lens, un frère à Douai, qui sa femme était très malade. Polyarthrite chronique, elle ne pouvait plus ouvrir des bouteilles, plus porter ses enfants. Mais terrible, quoi. C'est arrivé du jour au lendemain. En quelques mois, elle était presque quasiment handicapée. Certains dans cette salle la connaissent, cette dame. Radicale. Et nous, on se dit, qu'est-ce qui se passe, cette pauvre dame qui aime le Seigneur. Presque handicapée, je veux dire, on allait manger chez eux, elle ne pouvait plus ouvrir les bouteilles. Je veux dire, douleur aux doigts. Les médecins disent, bon, là, de toute façon, on va finir en chaise roulante. Son mari, Paramission Net. Vous savez, là, ce congrès qui est alterné avec Made in France, Paramission Net en Allemagne. Et au soir du Nouvel An, à minuit, il y a toujours ce temps de prière où, alors que vous êtes 2 000, 3 000 jeunes, allez, on se met par cellule de 5, 6 et on prie. Donc ce frère, il se met avec plusieurs personnes, donc le mari de cette dame malade. Et il se retrouve à côté d'une dame allemande. Et allez, on va prier pour la nouvelle année, que le Seigneur nous encourage dans nos ministères. La dame à côté, qui n'avait aucune idée de qui était ce frère, a prié pour la guérison de ce frère. Et ce pasteur, qui était, comment elle sait tout ça? Jusqu'au détail de la bouteille qui ne s'ouvrait pas, ou je ne sais plus, mais en tout cas c'était radical. Le lendemain matin, un appel de la dame, j'ai plus rien. J'ai plus rien. FPC, hein. FPC. Et aujourd'hui, cette dame, elle peut porter ses enfants et puis elle peut ouvrir des bouteilles. Alors, ce n'était pas une première rencontre, certes. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, une chose spectaculaire, dirais-je. Ça vous est déjà arrivé de vouloir témoigner à un collègue ou un ami, et vous dites, mais il n'y a aucune porte d'entrée. Vous avez déjà eu ça? Alors, moi, j'en ai plein, hein, au collège, j'en ai plein. Vous essayez par la porte, ça ne marche pas. Vous essayez par la fenêtre, ça ne marche pas. Vous essayez par le sous-sol, ça ne marche pas. Et vous êtes souvent là à dire, Seigneur, révèle-toi à cette personne. Moi, ça m'a pris souvent parce que la laïcité... Ou alors, je suis enseignant dans un collège qui c'est pas le collège qui a envoyé, mais on a eu 3 départs en Syrie il y a 2 ans pour rejoindre Daesh. Et je me dis, comment je fais pour témoigner? Eh bien, j'ai un frère, pareil, à Paris, qui n'arrivait pas à témoigner à un de ses collègues juifs. Et il essayait par la porte d'entrée, par la porte de derrière, et il dit, Seigneur, comment on fait pour témoigner? Comment je vais faire? Et un soir, Dieu lui accorde un songe. Et ce frère, qui le lendemain se retrouve au travail à côté de cet ami juif, lui dit « Oh, tu devineras jamais !» Alors ça fait des années qu'il essayait de témoigner de la foi à cet ami juif. Pas moyen. Et ce frère commence à raconter. En fait, c'était simple, j'étais chez toi, il y avait une tapisserie de cette couleur-là, j'étais assis là, autour de la table, ta mère est venue nous servir ce type de plat, ton père était là, moi j'étais là, ton frère était là, toi t'étais là, et il décrit la pièce. Le juif, il dit, je t'arrête tout de suite. Comment tu sais? Comment je sais quoi? Je te raconte ce que j'ai rêvé hier soir, voilà. C'est exactement le plat qu'on sert quand on a invité, c'est exactement la place où s'installe un invité, c'est exactement où mon père est installé quand on a un invité. C'est qui ton Dieu? C'était la porte d'entrée pour le témoignage de Jésus-Christ. C'est exceptionnel, hein? Cette rencontre de Saul est spectaculaire. Attention à ne pas attendre le spectaculaire à chaque rencontre, mais attention à juste dire, ah non, c'est fini, hein, plus de spectaculaire, parce que, je vous garantis, vous lisez les rapports de portes ouvertes. Ah ouais, et là, on dit quoi? Les deux histoires que je vous ai racontées sont passées en France, et si je crois que ça arrive, je crois aussi qu'il ne faut pas aller le chercher. Parce que je vois, moi, des disciples et des apôtres dans les actes qui sont là, et les circonstances viennent à eux. Ils ne vont pas aller les chercher. Eux, ils cherchent Jésus. Si Jésus leur donne un verset, ils disent le verset. Mais si Jésus leur donne autre chose, il leur dit autre chose. Et pour nous, ce matin, l'enseignement que moi je veux reprendre, en tout cas dans ma vie, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Montre-moi qui toi tu es. » Et derrière, je suis à ton écoute. En gardant l'idée que ce n'est pas normatif le spectaculaire. Ce qui est normatif, c'est un pécheur gracié par Jésus. Et après le reste, le Seigneur, il fait ce qu'il veut, c'est son œuvre. Il fait ce qu'il veut, c'est son œuvre. Tantôt par un chuchotement, tantôt par des grands grondements, ça dépend. Le Seigneur est spectaculaire. En gardant en tête que le plus spectaculaire, bien sûr, est un cœur qui change. Ça, c'est ce qu'on doit chercher. Un cœur transformé, une repentance, une vie mise en règle avec Dieu. Donc le premier arrêt que je vous ai proposé, c'est une rencontre exemplaire, normative, un pécheur gracié par Jésus. La deuxième, c'est une rencontre spectaculaire. Oui, les actes sont différents, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Soyons affinés. Si jamais c'est en accord avec la parole, fonçons, même si on n'a pas trop l'habitude. Troisième arrêt que je voudrais proposer, c'est les enjeux de la rencontre. Chaque rencontre a un enjeu. Une destinée qui change éternellement. Et pas que la destinée de la personne qui rencontre, mais peut-être d'autres personnes autour. Donc le dernier arrêt, donc si jamais vous étiez avec moi à Bristol, dans ce bus à deux étages, en haut, collé aux vitres, à regarder ce que Dieu fait, là plus on se rapproche du centre-ville, plus on commence à voir les traces claires du réveil. Hein. Les chapelles des frères Wesley en plein centre-ville au milieu du centre commercial, les orphelinats de Muller sont devenus un DUT ou un BTS, et vous passez à côté, et vous commencez clairement à ressentir que waouh, Dieu a fait des choses incroyables il y a 250 ans, et ça se voit encore, et vous réalisez que chaque rencontre avec Dieu a un enjeu, 50, 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, et des fois plus. Premier enjeu que je vois, c'est la défaite de Satan. Quand un homme ou une femme rencontre Dieu personnellement et décide, comme Paul, je m'humilie devant toi, je t'écoute, la défaite de Satan. Ça, c'est un enjeu fort. Jésus a la victoire dans vos vies. Il vous a revêtu d'un manteau blanc. Son sang vous a purifié. C'est fini. Pour le diable. La victoire est acquise. C'est un roc, c'est stable, c'est puissant, c'est au-delà de notre compréhension, de notre intellect, de notre paix que l'on pourrait connaître selon ce monde, c'est une paix qui dépasse notre entendement. Donc le premier enjeu que je vois, c'est la défaite de Satan. Et imaginez l'impact dans les églises de l'époque. Paul, Saul, celui qui persécute, à Jésus. Jésus est fort quand même. Donc je pense qu'on voit ce passage, Luc qui a écrit donc les actes, qui a écrit chapitre 9, ce récit, ça intervient bien sûr avant les voyages missionnaires de Paul entre autres, et on voit en fait une progression de l'œuvre de Dieu, à la fois sur plusieurs personnes, à la fois sur une personne, sur des juifs, les non-juifs, les samaritains, et boum, on arrive là, sur Paul, et c'est pour montrer qu'en fait Dieu il va intervenir dans toutes les sphères. Les juifs, les samaritains, un peu moitié-moitié, les non-juifs, et là, boum, un persécuteur. Et donc pour les chrétiens de l'époque qui devaient lire les actes avec des yeux comme ça, ils devaient se dire, waouh, c'est un encouragement de voir que Dieu, en fait, il recouvre tout. Hein. Les hommes d'affaires de notre siècle sont atteints par l'évangile. Les enseignants, les SDF, les prostituées, en fait, vraiment, on a un Dieu qui est multisocial. Et là, on voit Paul, seul Paul, qui est à Jésus. Deuxième enjeu, pardon, que je vois, c'est les conséquences de la rencontre. Pensez à Paul, la dizaine d'épîtres qu'il a écrits. Pensez à Paul. J'ai calculé les 10 383 kilomètres parcourus dans ses 4 voyages missionnaires. À peu près. Pensez à Paul, le nombre de personnes qui ont entendu l'évangile par sa bouche. Vous savez, si on peut compter le nombre de graines dans une pomme, vous le ferez ce midi si vous avez des pommes chez vous, on peut les compter, on ne pourra jamais compter le nombre de pommes dans une graine. Vous savez ce que vous faites? Vous mettez la graine, vous la mettez en terre, ça va refaire un autre pommier. Et vous imaginez jamais ce qui va se passer comme enjeu quand une personne rencontre le Seigneur. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Les frères Wesley qui se convertissent en lisant la préface aux Romains. 37 ans de réveil. Müller. Et vous les nommez tous les gens de réveil, ou même les gens aujourd'hui qui animent cette église. Une personne qui rencontre le Seigneur. Les enjeux derrière sont multiples. Et les conséquences aussi. Et je trouve que ça, c'est un grand enjeu, et c'est pour ça que je réalise que dans beaucoup d'églises, les comités d'évangélisation sont vides, les sorties dans la rue sont vides, justement parce que ça, c'est un enjeu. Et le diable, il ne veut pas que les gens rencontrent Jésus. Et il nous maintient dans une espèce d'occupation secondaire, alors qu'en fait, si les gens rencontrent Jésus, les enjeux derrière sont nombreux, et les conséquences aussi. Si on sait compter le nombre de graines dans une pomme, le nombre de pommes dans une graine sont incontables et innombrables. Troisième enjeu de mon troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est que la rencontre avec Dieu, donc celle qui scelle la victoire, on appelle ça la conversion, hein, la rencontre est suivie des rencontres. Et ça, c'est puissant aussi, que tous les matins ou tous les soirs, selon vos habitudes, vous vous levez et vous lisez votre Bible. Vous rencontrez Dieu personnellement, jour après jour. La rencontre est suivie des rencontres. Et ça, c'est un autre enjeu aussi. Hein, ou tous les matins, avec sa Bible. Ou alors par deux. Il y a 4 ans, j'ai un de mes élèves, c'est le Seigneur qui nous a fait vraiment un grand cadeau, il s'appelle Benjamin, un de mes élèves qui s'est converti. Et c'était vraiment, magnifique. Il est venu au groupe de jeunes, maintenant il habite à Lille. Et à un moment, il me dit, je galère à vivre les rencontres. Je galère à lire ma Bible, je galère, j'ai ma famille non chrétienne, je galère à joindre une église. Je dis, écoute, tu sais ce qu'on va faire tous les matins, 6 heures, on s'appelle. Moi, de toute façon, je me réveille, je t'appelle, on prie ensemble, et comme ça, au moins, tu es debout, et on lit notre Bible, chacun de notre côté. Et on a fait ça pendant 5 mois. Et maintenant, à un bout d'un moment, il fait, tu sais quoi, maintenant, c'est bon, le coche, il est pris, je peux lire tout seul. Je dis, génial, de toute façon, si c'est ça qui met le feu aux poudres. Les rencontres avec Dieu, avec de la musique, avec la louange, les réunions de prière en semaine, le week-end, les petits déjeuners avant d'aller au travail entre hommes, il y a plein et multifacettes, les rencontres. Et ça, c'est un enjeu aussi, que quand on rencontre Dieu une fois, après, c'est quotidien, de vivre ces moments de joie, ces moments de rafraîchissement, de ressources avec Dieu. Avant qu'on arrive à notre terminus. Le terminus, ce qui est drôle, c'est qu'il est plein centre-ville. Et vous faites 2 ou 3 rues, vous arrivez dans la chapelle des frères Wesley. Je rappelle les 3 points. Cette rencontre de Paul ici, elle est exemplaire. Elle est spectaculaire. Et cette rencontre a des enjeux. L'exemplarité, c'est que c'est normatif. Le spectaculaire, c'est que ça arrive et ça n'arrive pas. Pas à nous de juger, mais ça arrive des fois. Et les enjeux sont nombreux. Les conséquences de cette rencontre sont nombreuses. Tout le monde descend. Vous avez toujours votre ticket. Gardez-le si jamais on se fait contrôler. Hein. Quelques consignes pratiques pour ne pas tomber en descendant. Est-ce que chacun d'entre nous connaît Jésus aujourd'hui ? Jésus a dit quelque chose à Paul, il te serait difficile de régimber contre les aiguillons, c'est-à-dire de te rebeller, de tenir ferme, de résister. Est-ce que quelqu'un parmi nous résiste? Alors qu'on sait très bien que Jésus a la victoire et que c'est doux la grâce. C'est tellement doux. Quand Jésus appelle un pécheur, oh, ça fait du bien. Deuxièmement, est-ce que maintenant qu'on appartient à Jésus, on se dit, ben en fait, je fais quoi? L'appel de Paul était clair dans sa vie, aller vers les païens. Est-ce que ce matin, certains d'entre vous et d'entre nous se disent, ouais, moi je sais que j'ai la rencontre, c'est clair, c'est beau, mais par contre, où est-ce que je vais passer les 20 prochaines années, vraiment en étant, je suis au bon endroit, je sais quel est mon appel. Paul avait un appel clair. Et il y a été à 200%. Est-ce que ce matin vous dites, mince, c'est quoi mon appel en fait? Je suis étudiant, je travaille, je fais mes 3-8, je donne le bain à l'enfant, et puis je lis sa Bible, et puis après je vais me coucher, et puis je m'occupe le dimanche, et puis je vis dans une maison bien gardée, et puis je ferme mes portes la nuit. Quel est l'appel clair dans votre vie qui va faire que vous allez vous réveiller le matin en vous disant, je sais que c'est là où je dois être? Un peu comme Paul. Paul savait. Il savait, je vais là. C'est là où je dois aller prêcher. C'est là où je dois aller annoncer la parole. Jusque Rome. Même s'il était traîné devant les tribunaux. Troisième consigne, avant que tout le monde ne descende du bus, je vais juste vous lire un psaume, le psaume 40, vous pouvez le prendre, c'est un joli psaume que j'ai lu cette semaine, et je pense que ça pourrait être une belle conclusion. Psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se détourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur la justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Je vais finir avec le verset 13. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments et mes iniquités t'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux dans ma tête, et mon entourage m'abandonne. Que le Seigneur vous bénisse dans votre semaine, dans vos rencontres personnelles chaque jour, que ce soit le matin ou le soir, selon vos habitudes. Si vous avez une rencontre avec votre Dieu et vous êtes dans un moment de découragement, regardez ce qui a été révélé dans la lumière, pour être encouragé dans votre semaine. Et ayons les yeux grands ouverts, parce que notre Dieu est un Dieu spectaculaire. Qu'on le veuille ou non, un changement de cœur est spectaculaire, je peux vous le dire. Bonne semaine à tous. Soyez bénis.